Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview. Interview que vous pouvez écouter sur notre site internet www.rdwa.fr ou alors en modulation de fréquence sur 107.5. Aujourd'hui, nous sommes avec Clémence Lataste. Bonjour.
Bonjour.
Alors Clémence, tu es ici pour nous présenter une succession de cycles d'ateliers pratiques qui vont se dérouler grosso modo de mars, donc ça a déjà commencé, jusqu'à juillet hein, au moins.
Voilà, c'est ça.
Alors ces ateliers que tu nommes toi-même cycles d'ateliers pratiques, ou c'est une méthode que tu transmets ou que tu retransmets à un public?
Oui, tout à fait. En fait, ces cycles d'ateliers, ils se déroulent en général sur entre 6 et 8 ateliers, où l'idée, ça va être de mettre en pratique et pour les personnes débutantes, de découvrir en fait un processus qui est basé sur la communication non violente. Donc l'idée, ça va être de découvrir les bases de cette communication non violente. Donc comment écouter, comment s'exprimer d'une manière qui soit bienveillante et en même temps authentique, c'est-à-dire que je vais pouvoir dire ce que je pense vraiment tout en prenant soin du lien avec la personne qui est avec moi. Voilà. Et donc l'idée, c'est de pouvoir expérimenter en fait vraiment avec des situations vécues pendant les ateliers de pratique pour pouvoir un peu comme s'entraîner. Ça serait comme apprendre à nager avant d'aller un peu dans la tempête, quoi. Voilà.
C'est une approche de la manière de s'exprimer qui puisse être comprise par tous.
Oui, alors l'idée, tu veux dire, de cette approche de la communication non violente?
Oui.
En fait, c'est un processus, c'est une démarche qui va d'abord permettre de clarifier ce que je vis, donc c'est-à-dire de comprendre et de vraiment pouvoir mettre des mots sur ce qui se passe pour moi dans une situation, donc dans tout type de situation, et souvent c'est des situations de communication ou de lien avec moi-même, si je vis quelque chose et que je sens que c'est flou ou que voilà, c'est un peu brouillon, bah, je vais déjà commencer par décortiquer ce qui se passe et ce que je vis. Donc ça se base sur 4 étapes, c'est-à-dire essayer d'identifier quel est le fait, quelle est l'action ou l'événement qui m'a touchée, et puis ensuite d'essayer de voir comment je me sens en lien avec cette situation. Et de quoi j'ai besoin en fait? Qu'est-ce qui me manque ou qu'est-ce qui est satisfait ou insatisfait dans cette situation? Et puis qu'est-ce que je peux faire, soit demander à moi-même, soit à quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire en sorte juste de satisfaire ces besoins qui ne le sont pas à ce moment-là? Donc quelque chose qui est important pour moi et qui n'est pas satisfait en fait. Que ce soit du lien, de la communication, que ce soit des choses très générales et très universelles en fait, de l'amour, de la reconnaissance, de la sécurité, voilà. C'est identifier en fait ce qui me manque pour être capable ensuite de, comme disait Marshall Rosenberg, qui est celui qui a, on va dire, créé cette démarche de communication non violente, il disait comment se rendre la vie plus belle en fait, c'est juste ça.
Je suppose que en voulant pratiquer, enfin de présenter ces ateliers, tu éprouves certainement une nécessité à les proposer.
Alors pourquoi je les propose? Parce que pour moi, je remarque en fait, c'est vraiment en pratiquant et en intégrant et en m'entraînant. Donc ce que j'ai fait moi dans ma formation et ce que je continue à faire, parce que je continue à me former pour vraiment continuer, c'est vraiment une démarche, un processus de vie en fait hein, qui est sans fin. Et pour moi c'est vraiment dans le fait de créer, on va dire, comme des nouveaux chemins en fait ou des nouvelles connexions neuronales en fait, pour arriver à petit à petit emprunter des chemins qui me plaisent plus que d'autres et essayer d'identifier par exemple mes systèmes de fonctionnement réflexes que je vais avoir mis en place par exemple quand je suis enfant ou dans d'une manière pour me sécuriser en fait. Et ces chemins-là, ils sont comme si c'était des autoroutes en moi qui sont tout tracées, donc c'est très facile de les prendre dès qu'il y a une situation, un événement, je vais foncer dans cette direction. Et pour moi, l'intérêt de pratiquer, c'est d'essayer de mettre en place d'autres chemins en fait, d'autres manières de fonctionner. Et pour moi, ça demande du temps en fait pour petit à petit créer une nouvelle manière d'interagir en fait. Voilà.
Il y a un intitulé d'un des ateliers qui s'appelle « Formation, s'écouter vraiment pour mieux coopérer ». Est-ce que quand des gens se réunissent, tu constaterais que certains n'écoutent pas ou alors ils n'écoutent qu'eux-mêmes et au point de ne pas entendre les autres? Est-ce que ça, c'est une mise à l'index que tu proposes ou que tu démontres dans ces ateliers?
Ben là, l'atelier dont tu parles, en fait, c'est le cycle de 6 modules pour les bénévoles d'association, qui va d'ailleurs commencer très prochainement le 23 mars et qui se déroule jusqu'à juin. Donc il y aura 6 ateliers de 3 heures. Et l'idée dans ces ateliers, oui, c'est de proposer en fait de constater quels sont nos obstacles à la communication et surtout là, sur cet atelier-là, quand on est en groupe, donc quand on est en réunion ou qu'on essaye de communiquer en groupe, et de voir quels sont les obstacles. Et c'est vrai qu'un des obstacles, ça peut être déjà que les personnes ne s'écoutent pas vraiment et soit ne s'écoutent pas elles-mêmes. C'est-à-dire elles ne sont pas vraiment au clair avec ce qu'elles veulent communiquer, ce qu'elles veulent dire. Soit elles n'écoutent pas l'autre et donc le message ne passe pas en fait. Et ça amène à des incompréhensions ou à des interprétations qui font qu'on va continuer le dialogue sur quelque chose qui n'est pas la réalité de ce que chacun vit. Donc pour moi l'idée dans ces ateliers-là, oui, c'est de proposer d'identifier déjà quels sont nos freins quand on communique et comment on peut changer et qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre dans un groupe, dans notre manière de communiquer. Donc du coup, on va explorer différentes pratiques concrètes. Par exemple, écouter juste la base, quoi. C'est quand j'écoute quelqu'un, je suis en silence et j'essaye vraiment d'être avec la personne plutôt que de réfléchir à ce que je vais répondre. Et puis une fois que j'ai entendu son message et que j'ai bien compris et je peux, par exemple, lui dire « j'aimerais juste te dire ce que j'ai compris pour vérifier ». Et ensuite, si la personne me dit que c'est bien ça, je vais lui proposer de dire voilà ce que j'ai envie de te dire, moi, par rapport à tout ça. Donc c'est vraiment mettre en place des choses assez claires pour clarifier de à quel endroit je suis, en fait, dans la communication. Est-ce que je suis en train d'écouter ou est-ce que je suis en train de m'exprimer? Et juste que ces deux postures-là, elles soient super claires. Parce que si on est les deux en train de s'exprimer, on ne va pas juste pas s'écouter. Personne ne s'écoute à ce moment-là. Donc, il n'y a pas d'espace pour l'écoute. Donc, c'est vraiment ça, c'est arriver à identifier, à mettre en place d'autres manières de faire dans un groupe. Et aussi d'arriver à prendre des décisions ensemble, basées sur une compréhension mutuelle.
Alors, est-ce que ensuite, un autre atelier qui parle de découverte de la communication consciente, est-ce que justement ça se rapporte à cette prise de conscience de l'instant présent ou qui permet justement de mieux écouter la personne en face?
Oui, donc ces ateliers-là, c'est des ateliers de découverte qui durent 2h30. Donc il y en aura prochainement, par exemple, aux Agités du local. Donc ça va être le vendredi 24 mars et un autre le 7 avril. Et à Cré aussi, pour les personnes qui sont plutôt de côté de Cré, mais à l'Usine Vivante. Donc ça sera le 29 mars à l'Usine Vivante, de 18h à 20h30. Voilà. Et l'idée, en fait, dans ces ateliers-là, c'est déjà de prendre conscience de nos modes de communication et de réaliser qu'en fait, souvent, on va... Enfin, je remarque, moi, en général, la première chose qui va sortir quand je vais communiquer avec quelqu'un, si j'ai pas vraiment conscience de ce que je vis, ça va être souvent sous forme de reproche ou sous forme de jugement ou d'interprétation, que ça soit sur moi-même, un jugement sur moi-même ou sur l'autre. Et c'est juste pour prendre conscience de cette manière de faire à ses réflexes et de se rendre compte, en fait, qu'est-ce que je veux dire derrière ça. Parce que derrière un jugement, il y a toujours un magnifique message, en fait, mais qui n'est pas vu comme ça, parce que je vais l'exprimer d'une manière qui ne donne pas vraiment envie à l'autre, quoi, de le recevoir, ou qui ne donne pas les clés, en fait, de ce que je vis moi-même. Donc, dans ces ateliers-là, l'idée, ça va être vraiment de pouvoir prendre conscience de qu'est-ce qui se passe quand j'émets un jugement. Donc on va vraiment essayer de décortiquer ces modes de fonctionnement qu'on appelle deux paradigmes en fait en communication non violente. Et pour ceux qui connaissent, on donne l'image du chacal et de la girafe. En fait, il y a ces deux paradigmes-là, c'est une métaphore de deux manières de fonctionner qu'on a tous en fait et desquelles on va juste prendre conscience. Et pouvoir choisir, en fait. Parce qu'une fois que j'ai conscience de ce que je dis ou de ce que je fais, je peux choisir quelle direction je prends. Et voilà, et donc c'est arrivé à juste prendre conscience que quand quelqu'un me donne un reproche ou me fait un reproche, en fait, il y a autre chose derrière comme message. Il y a souvent quelque chose de beaucoup plus vulnérable, en fait. Et la personne, elle parle souvent d'elle, mais elle n'a juste pas appris à le faire. Voilà.
La métaphore du chacal et de la girafe, est-ce que tu peux, développer cette idée?
Oui, alors en fait, c'est deux images que donc Marshall Rosenberg, qui est celui qui a développé la CNV, utilise et utilisait en fait et qu'il a transmis dans cette démarche-là. L'idée, c'est juste de figurer qu'en fait, on a différents modes et postures, différents systèmes de fonctionnement, et que un fonctionnement qui est assez réflexe, c'est notre fonctionnement chacal, c'est-à-dire que c'est un fonctionnement où on va être plus dans la réaction instantanée et puis plus dans l'interprétation de ce que l'autre dit, dans le jugement. Donc, soit je vais me dire que ce que l'autre me dit quand il me donne un reproche, par exemple, c'est la vérité, donc je vais le prendre pour moi et je vais ensuite moi-même me juger. Soit, donc c'est ce qu'on appelle le chacal vers moi, c'est-à-dire que je m'auto-critique. Soit ça va être le chacal vers l'autre, ça veut dire que je vais critiquer l'autre en retour. Et donc souvent, ça va amener soit à de la colère, soit de la culpabilité, soit une forme de tristesse, de dépression, parce que je m'auto-déprécie, quoi. Et ces modes de fonctionnement, en fait, ils sont souvent un frein au lien et à ce que Marshall Rosenberg appelait la vie, quoi. C'est pas au service de la vie, en fait, il le disait de cette manière. C'est-à-dire que c'est pas au service du lien. Et souvent, malheureusement, ça va nous couper de l'autre. Et il disait que, en fait, la violence et le jugement, c'est l'expression tragique d'un besoin. C'est-à-dire que le chacal, il va exprimer de manière tragique quelque chose qui est super précieux pour lui, en fait. Et quand je dis lui, c'est chacun de nous, en fait, on va le faire de cette manière. Et en fait, il a pris la métaphore de la girafe pour juste signifier une autre posture, en fait, une autre manière d'être en lien, qui va essayer d'être plus en lien avec les sentiments, les besoins, avec ce qui est plus vulnérable en moi, en fait, et peut-être que j'arrive pas à identifier ou que j'arrive pas à exprimer. Et donc, on dit en général que c'est parce que la girafe, elle a déjà une vue un peu plus dégagée par rapport au chacal qui est plus collé au sol. Elle a une vue un peu plus globale de ce qui se passe. Et en fait, c'est le mammifère qui a le plus gros cœur parce qu'elle a un cou tellement long que pour amener le sang à sa tête, elle va avoir un besoin d'un gros cœur. Et donc, on appelle la CNV, en fait, le langage ou la posture en lien avec le cœur, avec la vie, quoi. Voilà un peu ces deux métaphores-là qui sont juste un soutien à la compréhension de ces deux modes de fonctionnement qu'on a. Voilà.
Clémence, suite à ces présentations d'ateliers, est-ce que tu pourrais peut-être nous présenter une situation concrète que tu as vécue et qui a permis, par exemple, d'appliquer tes méthodes?
Récemment, j'étais en réunion avec quatre collègues où on était en train d'organiser une formation pour cet été. Et en fait, par exemple, à un moment donné dans la réunion, je vois que quelqu'un s'exprimait et parlait de quelque chose qui n'était pas en lien avec le sujet qu'on était en train d'aborder. Et je vois que petit à petit, je commençais à décrocher de ce que la personne disait parce que j'arrivais juste plus à suivre son propos parce que ça partait sur différents sujets, en fait. Et ce que j'ai réalisé à ce moment-là, c'est que je me suis dit, OK, ben, je sais que la personne, là, elle essaie d'exprimer quelque chose d'important. Sauf que moi, j'arrive pas à être en lien avec son message. Donc, la première chose que j'aurais envie de faire, c'est soit décrocher, pas écouter, me dire c'est bon, je vais attendre que ça passe. Soit réagir directement en disant bon, écoute, ça a aucun rapport ce que tu dis. Donc, soit tu reviens dans le sujet, soit on revient à ce qu'on était en train de faire. Et je vois que ce que je peux faire maintenant, parce que j'ai peut-être plus de compréhension de ce qui peut se passer pour chacun, c'est de me dire, OK, je vais essayer de vraiment me relier à ce que la personne, elle veut dire, d'essayer de vraiment comprendre. Et si je ne comprends pas, lui dire, en fait, je réalise que je suis un peu perdue dans ce que tu dis et que pour vraiment rester avec toi, j'aimerais bien avoir peut-être plus de précision ou pouvoir savoir de quoi tu parles et peut-être savoir si tu aurais une demande concrète à faire au groupe. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais demander précisément, quoi. Et du coup, ben, la personne, directement, elle a réalisé, en fait, que, ah ouais, en fait, je suis plus trop dans le sujet, c'est vrai que je me suis un peu égarée dans ce que je dis. Et là, ce que j'aimerais vous demander, c'est est-ce qu'on peut mettre en place, par exemple, une prochaine réunion, on pourra parler de ce sujet parce que je vois qu'il est super important pour moi. Et qu'en même temps, c'est vrai qu'il reste une demi-heure, donc peut-être qu'on n'a pas le temps de l'aborder. Et c'est juste, en fait, de, pour moi, réorienter ensemble la conscience de, OK, on est où, quoi. Plutôt que de s'envoyer des pics qui fait qu'il y a la tension qui monte dans la réunion et que les gens n'ont plus envie de s'exprimer, qu'il n'y a plus de confiance aussi pour que chacun puisse s'exprimer, quoi. Voilà, par exemple.
Je reviens sur tes propos par rapport à l'autodépréciation. Est-ce que c'est un phénomène qu'on rencontre de plus en plus actuellement quand tu abordes des situations ou même lors d'ateliers
De plus en plus, je pense pas. Je pense que c'est juste un phénomène assez réflexe en chacun, quoi. C'est-à-dire de prendre personnellement ce qui se passe ou de s'imaginer que c'est de notre faute ou que c'est parce qu'on n'a pas bien fait. Moi, en tout cas, je peux parler de moi, je peux pas vraiment dire pour d'autres, mais ce que je vois, c'est que c'est quelque chose qu'on peut avoir pas mal en commun, en fait. Et moi, je vois que souvent, quand quelqu'un va me dire quelque chose, je vais me dire « Ok, j'ai pas bien fait, quoi. » Donc je vais prendre ce que quelqu'un dit pour moi et je vais l'interpréter en fait. Et donc pour moi l'autodépréciation c'est juste une interprétation de ce que j'entends ou de ce que je m'imagine. En fait c'est mes films et pour moi c'est hyper en lien avec le fait d'avoir besoin d'être aimé et d'être reconnu quoi. Et comme j'ai pas forcément la confiance totale que je vais être aimé ou que je peux m'aimer moi-même ou que je peux me reconnaître moi-même, eh ben, dès que quelqu'un va me dire la moindre petite chose qui peut me laisser avoir l'impression que j'ai mal fait, du coup, je vais le transformer comme ça parce que c'est juste pour moi un manque de confiance, quoi, et de ouais, un manque de confiance, en fait.
Est-ce que l'autodépréciation se réfère à des choses qui nous entourent et qui rappellent, semble-t-il quand même, que certains ont plus de mérite ou plus de capacité que d'autres ?
Là, dans ce que tu dis, moi, en tout cas, là où ça me touche, c'est par rapport à plus de mérite ou plus de capacité, ça me renvoie beaucoup en fait au système scolaire classique, on va dire, où en fait, il y a beaucoup de comparaisons et ne serait-ce que le fait d'utiliser des notes, il y a forcément une comparaison dans est-ce que j'ai une meilleure note ou moins bonne note. Et pour moi, en fait, je réalise que ce système-là d'autodépréciation, il vient beaucoup aussi de ça, en fait. Est-ce que j'ai eu un environnement quand j'étais petite qui m'a permis ? Alors, je pense que oui, mais il y a quand même des endroits qui sont encore fragiles, en fait. Et j'ai l'impression que je vois ça chez beaucoup de personnes, que j'ai pas forcément eu le soutien ou la confiance, par exemple, des personnes autour de moi dans le système scolaire ou d'autres, des parents, pour encourager à dire « mais oui, t'as de la valeur, quoi ». Et quelle que soit la chose que tu fasses ou que tu dises, en fait, de toute façon, t'as de la valeur. Et je vois que pour moi, c'est très lié à cette croyance que j'ai de la valeur que parce que je fais quelque chose de bien, en fait. Et je reviens à ce système chacal qui est vraiment basé sur la croyance que le bien et le mal existent et qu'il y a des choses qui sont bien et d'autres qui sont pas bien. Et donc, je vais intégrer pendant mon éducation qu'il y a des choses qui se font et d'autres qui se font pas. Et dès que je vais avoir l'impression que je suis dans le pas bien, c'est là que je vais m'auto-déprécier et que je vais me dire « Ok, t'as pas bien fait, quoi ». J'ai tellement intégré ce système-là que du coup, je le fais avec moi-même, en fait. Et je vois que c'est pour moi, c'est vraiment lié à quel système éducatif est mis en place. Et dans ce système chacal, le système éducatif, il est souvent basé sur les punitions, les récompenses, les comparaisons, les jugements. Et donc, ça amène à un mode de fonctionnement interne qui va être pareil, en fait. Une fois que je suis adulte, je vais continuer à fonctionner comme ça. À fonctionner avec des punitions, des récompenses pour moi, des jugements ou de l'appréciation sur si j'ai bien fait ou mal fait. Et pour moi, le système qu'on appelle girafe dans la communication non violente, c'est la proposition d'un système qui soit basé sur autre chose que les punitions et les récompenses, mais plus sur la reconnaissance des besoins mutuels. Et donc, les moyens, ça serait de s'exprimer de manière authentique, écouter l'autre, être dans un dialogue et un rapport bienveillant, quoi. Voilà. Et aussi dans la croyance et dans la croyance que chacun, en fait, a envie de contribuer au bien-être de l'autre. À la base, quoi, et qu'il n'a pas envie de faire du mal. Voilà.
phrase que je me permets de te donner. Est-ce que quand on n'a pas une Rolex à 45 ans, on a raté sa vie?
tu me demandes si moi je pense ça?
Je voudrais savoir, est-ce que ça ne serait pas un des phénomènes qui pousse des gens à s'auto-déprécier?
Ah oui, par rapport à la pression que les gens peuvent se mettre sur la réussite ou le succès. Ouais, tout à fait, je pense que c'est clairement en lien aussi avec peut-être ce que j'imagine des attentes de la société. Et donc, si je ne correspond pas aux attentes de la société, alors je ne m'aime pas, en fait, ou je m'aime moins, ou je n'ai pas de valeur. Et c'est sûr que ça, pour moi, c'est clairement une source de pression, quoi. Est-ce que je colle avec ce que mon environnement social attend de moi, quoi. Et je pense que, justement, dans cette approche que je transmets, c'est vraiment une manière de se connaître vraiment, en fait, et de se réapproprier son pouvoir d'agir et son pouvoir de décision sur qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, en fait. Qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qui je suis, pour pouvoir déterminer ce que je veux, parce que si je me réfère que aux attentes sociales, ben, je me perds, en fait. Je sais pas forcément ce qui je suis et ce que je veux. Moi, j'ai fait des études de sciences politiques et je vois que ben, j'étais... à un moment donné, quand même beaucoup dans cette croyance de « il faut que j'aille dans cette direction pour réussir ma vie ». Et puis à un moment donné, j'ai réalisé qu'en fait, ça collait pas avec mes aspirations profondes, avec mes valeurs. Et donc, j'ai eu envie de changer de direction. Mais pour ça, ça demande beaucoup d'énergie, de croire en soi, d'avoir du soutien autour pour pouvoir le faire, quoi. Parce que c'est sûr que si je suis dans un environnement où toutes les autres personnes, elles croient que la réussite, c'est autre chose... Alors ça va être très difficile de pouvoir me sortir de ces croyances-là pour aller vers mon propre chemin, quoi. Ouais.
Alors, je reviens un peu sur les propos de tout à l'heure où tu disais que ça permettait à des personnes, de permettre à des personnes de mieux écouter les besoins des autres. Est-ce que, quand tu parles de sciences politiques, puisque tu as une formation dans ce domaine, est-ce que vous abordez aussi un peu l'économie et par exemple, cet économiste qui s'appelait Keynes, est-ce que vous avez abordé ce travail et qui répond un peu à cette, quelque part, à cette démarche?
Tu veux dire le lien avec les besoins?
Oui.
Oui, alors je te dirais que c'est un peu des vieux souvenirs pour moi.
Je reviens là-dessus parce que tout dernièrement, dans certaines publications, j'ai vu le nom Keynes revenir, donc qui avait été délaissé par le système libéral qui a sévi depuis plus de 20 ans maintenant, même depuis Reagan. Voilà, et donc je voulais savoir s'il y a une résurgence de cette idée.
Alors, en fait, je veux bien que tu me résumes l'idée dont tu parles, parce que ça m'aiderait à...
Voilà. Est-ce que tu t'es fié par rapport à Keynes pour affirmer, par exemple, d'être à l'écoute du besoin des autres pour pouvoir développer des échanges?
Non. Par contre, je pense qu'il y a peut-être... Enfin, il y a peut-être des liens, mais je t'avoue que je ne me rappelle pas vraiment de quelle est sa vision, en fait, sur les besoins. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que cette vision des besoins fondamentaux, elle vient de plein de... Comment dire? De plein d'approches. Et Marshall Rosenberg, il a comme mixé, en fait, différentes approches. Et en fait, ça parle de quels sont nos besoins fondamentaux pour vivre et pour être bien dans notre vie. Et donc, il a fait comme un répertorié, en fait, tous ces besoins-là. Alors, c'est une liste qui n'est pas du tout exhaustive, mais qui regroupe, en fait, des choses qui nous relient les uns aux autres. Et des choses sur lesquelles on peut se comprendre et on peut s'identifier, en fait, à ce que l'autre peut vivre. Par exemple, si moi, je dis que... Par exemple, je sais pas, si je dis d'une manière, on va dire, en mode jugement ou d'interprétation, de dire, de toute façon, tu t'en fous de moi, en fait. Tu m'écoutes pas et tu t'en fous, voilà. En fait, je parle pas de moi, là, je parle de l'autre. Mais ce que je veux dire, au fond, c'est que j'ai super besoin, peut-être, d'attention, de soutien, de reconnaissance, ou voilà, et qu'en ce moment, c'est difficile et que j'ai vraiment besoin de ce soutien-là et que je vois juste que dans l'attitude ou dans comment tu es, ben, ça me nourrit pas, ce besoin. Mais que si je dis à la personne... En fait, j'ai super besoin de soutien en ce moment parce que je vis une période où je suis super fatiguée, où il y a beaucoup de choses. Ben, c'est beaucoup plus facile à entendre et la personne, elle peut se relier à moi parce que je lui parle de quelque chose qu'elle peut vivre aussi à d'autres moments dans sa vie d'avoir besoin de soutien. Donc les besoins, c'est vraiment quelque chose d'universel et qui permettent, oui, de se relier les uns aux autres et de se comprendre, quoi. Voilà ce que je peux dire de ce que de la vision des besoins dans la communication non violente et qui s'inspire d'autres théories, quoi.
Alors, est-ce qu'on peut peut-être parler d'autres ateliers aussi à venir, puisqu'il y aura le CAP 2 hein, qui se déroule de mai à juillet, oui. Et qui aborde quel type de réflexion ?
Alors en fait, ce cycle d'ateliers, c'est donc le cycle d'ateliers pratiques niveau 2, c'est-à-dire que en fait, ça va être la continuité du cycle d'ateliers de niveau 1, donc il y en a déjà eu 1 à 10. Il y en a un autre qui est en cours à Die et il y en a un qui est à Vérone en ce moment. Et l'idée, c'est de continuer à explorer en fait, les thèmes qu'on explore dans le premier, c'est-à-dire l'auto-empathie, comment je m'écoute moi-même, comment je m'accueille moi-même avec ce que je vis et comment j'arrive à comprendre ce qui se passe pour moi, à identifier. Il y a aussi l'écoute empathique, c'est-à-dire la même chose mais avec l'autre, comment je peux me relier à l'autre, à ce qu'il vit en fait. Et puis après, il y a ben, comment je pourrais exprimer ce qui se passe et comment je peux faire la différence entre toutes ces étapes dont j'ai parlé au début, qui sont l'observation de ce que je vis, les sentiments, les besoins que j'ai et quelles demandes je peux faire. Et on va vraiment passer du temps à comprendre quelles sont ces différentes étapes-là pour pouvoir ensuite avoir cette conscience-là de où je suis quand je m'exprime. Et donc le cycle d'atelier 2 qui commence en mai, en fait, c'est une continuité, un approfondissement de ce qu'on a fait. Donc c'est vraiment encore de la pratique et vraiment parce que pour moi, la communication non violente, c'est quelque chose qui est, c'est comme un... quelque chose qui est sans fin en fait. Je peux l'aborder toujours, revenir toujours à ces quatre étapes qui paraissent hyper simples, mais en fait il y a beaucoup de profondeur là-dedans. Donc dans l'étape 2, dans le cycle 2, on va vraiment approfondir et continuer. Et l'idée c'est que ce soit des personnes qui aient déjà les bases en fait. Donc on va pouvoir à partir des bases continuer quelque chose de plus, on va dire de plus fin en fait. Voilà.
Alors ces ateliers s'adressent donc à des bénévoles de l'association par exemple, mais son champ d'application pratique dans la vie quotidienne, ça se résumerait en quoi et ça toucherait combien de personnes, ça peut toucher à combien de personnes ?
En fait ça touche tout le monde parce que c'est vraiment une... pour moi c'est vraiment une prise de conscience à comment je suis en interaction avec moi d'abord. Parce que déjà, si je commence à être violente avec moi-même, ça va teinter ma manière d'être avec les autres. Et ensuite, comment je suis en lien avec les autres. Et ça, en fait, c'est tout le temps dans ma vie, à part si je suis ermite. Et encore, bah, j'ai des liens avec moi-même. Mais c'est tout le temps. Ça peut être dans ma vie personnelle, c'est-à-dire avec, dans mon couple, avec ma famille, mes enfants, les voisins. Voilà, tous les gens qui sont autour de moi, en fait, au quotidien. Et puis avec dans mon travail, donc ça peut être les collègues, les personnes avec qui je suis en lien, si je suis en lien avec des clients, avec des personnes avec qui je travaille, que j'accueille, voilà. Il y a toutes les personnes avec qui je suis en lien dans mon quotidien et en passant d'abord par moi-même. Et donc c'est vraiment pour moi une démarche qui est globale en fait et qui après peut avoir des champs d'application plus spécifiques en fonction du thème de l'atelier ou du thème du stage, où là on va approfondir un environnement en particulier. Donc je fais aussi des formations dans des entreprises ou pour des équipes, où là vraiment du coup on va envisager cette démarche avec l'angle professionnel, on va dire des relations professionnelles. Mais quand on est dans un stage pour des particuliers, on peut aussi envisager ça avec l'angle de relations en couple ou relations en famille, relations adulte-enfant. Donc il va y avoir vraiment beaucoup une diversité en fait de thématiques qui sont abordées.
Les personnes qui viennent à ces ateliers, est-ce qu'elles ont un profil particulier pour, et quelle est leur recherche principale ?
Je pense que la recherche principale, alors je ne pourrais pas parler au nom de toutes les personnes, mais ce que je vois, c'est souvent... J'ai beaucoup aimé en fait une formatrice des États-Unis que j'ai rencontrée là il y a pas longtemps, une formatrice en communication non violente qui disait souvent on arrive à la CNV parce qu'on a des difficultés ou parce qu'il y a de la tristesse ou de la peine ou de la colère et qu'on a envie de comprendre en fait ce qui se passe et de pouvoir être en interaction de manière différente. Et on reste parce qu'il y a de la joie, en fait. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'au fur et à mesure, on crée des liens avec soi-même et avec les autres. Donc je vois que souvent, en fait, on arrive à la communication non violente parce qu'il y a une interrogation sur comment je peux faire autrement que ce que je fais maintenant qui ne me satisfait pas, en fait. C'est-à-dire, je constate que dans mes relations, j'aimerais arriver à trouver plus de sérénité, plus de compréhension, plus de calme, plus de paix, et qu'en fait, pour l'instant, j'arrive pas à faire autrement qu'à crier sur mes enfants, ou j'arrive pas à faire autrement qu'à m'engueuler avec mon compagnon, j'arrive pas à faire autrement que à pas se comprendre dans les réunions au travail, et j'ai envie de changer ça, en fait, mais juste, je sais pas forcément comment. Et j'ai entendu parler de la CNV et on m'a dit que ça pouvait être un soutien. Et souvent, les gens, ils arrivent là avec ça, en fait.
Clémence, donc tu as eu une formation en sciences politiques. À quelle école, par exemple ?
J'ai fait mes études à l'Institut d'études politiques de Toulouse.
Et par la suite, donc, tu t'es spécialisée dans la communication non violente. Quelles sont ces écoles qui forment dans ces pratiques ?
Oui, alors en fait, en ce moment, moi, je suis en parcours de certification, c'est-à-dire que je suis dans la formation qui va me permettre d'être formatrice en communication non violente. Actuellement, je suis formatrice depuis à peu près 4 ans dans le domaine de la communication interpersonnelle. Et donc, il y a une école qui s'appelle Assertif, qui est en fait l'école qui permet d'être certifiée en communication non violente en tant que formateur. Et c'est une école qui donne des stages en fait un peu dans différents lieux, qui n'a pas de lieu physique, et voilà, et qui forme beaucoup de formateurs en fait dans ce domaine-là. Voilà.
Clémence, qu'est-ce qui t'a motivée à œuvrer pour ces pratiques et cette recherche de la communication non violente et même tout simplement la relation humaine?
En fait, au cours de mon parcours, et je dirais ça commence assez tôt en fait quand j'étais au lycée, j'ai eu des expériences qui m'ont fait voir ou qui m'ont montré un côté du monde du travail qui n'était pas très agréable en fait, et surtout dans tout ce qui est autour des burn-out et des dépressions en lien avec le travail, dans mon environnement familial notamment. Et en fait, je me suis vraiment fait la promesse de moi-même prendre soin de ça pour moi dans mon environnement professionnel. Et j'avais vraiment envie de pouvoir contribuer au bien-être au travail notamment, mais aussi de manière plus large. Et puis, j'ai petit à petit cheminé avec cette idée-là qui était présente. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire comme métier, en fait. Souvent, on me disait, après le lycée, tu fais quoi, en fait ? Je savais pas, donc j'ai décidé de faire des études de sciences politiques parce que je me disais que ça allait être assez large. Et au fur et à mesure aussi, j'ai fait des rencontres qui m'ont permis de m'orienter, en fait. C'est vraiment, je dirais, je remercie vraiment ces rencontres-là parce que ça m'a permis de m'ouvrir des portes sur différents domaines. Et d'abord dans le domaine de l'environnement, donc la protection de l'environnement et de notre environnement en général, donc nous les humains et aussi du reste. Et puis j'ai réalisé qu'en fait pour moi ça avait peu de sens d'œuvrer pour la protection de l'environnement si je ne pouvais pas comprendre ce qui incitait les personnes à dégrader l'environnement, ou en tout cas ce qui faisait qu'ils n'avaient pas conscience de ce qui se passait. Et donc au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais envie d'être plus en lien avec l'humain, quoi. Et dans mes études de sciences politiques aussi, je voyais qu'à la fin de mes études, ce qui m'intéressait le plus, en fait, c'était tout ce qui était autour de la sociologie, de comprendre les interactions entre les humains, comment on fonctionne et pourquoi, et de tout ce qui est en lien avec l'humain, quoi, les liens qu'on a les uns entre les autres. Et j'ai fait des rencontres après mes études, enfin, et pendant et après mes études, notamment avec une formatrice qui œuvre pour le bien-être au travail par le rire. Et j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur ce thème-là, donc de la prévention des risques psychosociaux au travail par le rire. Et j'ai vraiment découvert un monde, en fait, aussi en lien avec comment je peux prendre en compte mes émotions et qu'est-ce qu'elles disent de ce que je vis. Et j'ai eu envie d'approfondir. Et puis la CNV, la communication non violente, est un peu arrivée sur mon chemin par des rencontres et des personnes qui m'en ont parlé. Et je me suis formée au fur et à mesure. Et j'ai tellement, tellement adoré ce que ça m'a permis de voir pour moi, en fait, de comprendre pour moi. Et puis de comment ça a aussi changé ma manière d'être en relation, notamment avec mes proches, petit à petit en fait. Et puis avec moi-même c'est un peu plus long, mais ça commence aussi à être plus agréable en fait d'être en lien avec moi. Et donc j'ai tellement adoré ça, que j'ai eu envie de le transmettre directement. Et aussi parce que sur mon chemin, j'ai rencontré des personnes qui étaient dans la transmission de ces processus-là. Donc des formatrices comme Suzanne Olivier Vergès qui est à Toulouse et Isabelle Esteves aussi qui sont à Toulouse et qui m'ont fait directement confiance. Et donc j'ai commencé à animer, co-animer avec elles, à les assister aussi sur des formations. Et voilà, et je pense que j'avais peut-être cette fibre aussi là d'envie de transmettre quoi, et de partager en fait ce qui me plaît et surtout ce qui pour moi me donne beaucoup d'espoir en fait dans le futur. Parce que j'ai vraiment constaté que souvent les projets, les groupes, les duos, les liens, quand ça rate, c'est souvent en lien avec des tensions en fait. Il y a des problèmes de compréhension mutuelle et je me suis dit que c'est trop dommage en fait que ça rate à cause de ça. Et que là, j'ai trouvé comme un trésor quoi, qui me permet de comprendre plus et d'être plus en lien avec les autres. Donc j'avais envie vraiment de pouvoir le partager quoi. Voilà.
Clémence, tu es installée dans le Diwa ou...
Oui, j'habite à Diwa.
D'accord. Et ça fait combien de temps que tu es ici?
Ben, ça va bientôt faire un an en fait. Ouais. Même je crois que ça fait un an il y a quelques jours. Voilà.
Et alors, qu'est-ce qui te retient sur le Diwa, sans être trop intrusif? Est-ce que c'est le paysage? Qu'est-ce qui charme hein?
Alors en fait, je crois que ce qui fait que je reste ici pour moi, c'est parce qu'il y a, y a tout l'environnement du paysage et du lieu. Et il y a aussi pour moi toutes les dynamiques... qui sont en lien avec ce que je propose et je suis impressionnée quand je suis arrivée. En fait, j'ai parlé de ce que je faisais aux gens autour de moi et la plupart des personnes avaient déjà entendu parler de la communication non violente ou alors connaissaient même bien, ce qui a été hyper étonnant pour moi parce que à Toulouse c'était pas le cas en fait. Bon, c'est beaucoup plus grand, mais je veux dire il y a vraiment, j'ai l'impression ici, une culture en fait je dirais, pour faire large, de alternative en fait, de qu'est-ce qu'on peut faire d'autres pour créer un monde qui nous plaît quoi. Et pour moi c'est vraiment un énorme soutien au quotidien en fait, d'être entouré de personnes qui croient dans les mêmes valeurs, ou en tout cas les valeurs proches des miennes en fait, d'un monde où on pourrait être plus en lien les uns avec les autres, se soutenir, voilà, créer ce qu'on a envie quoi, basé sur le lien humain en premier. Et donc je pense que c'est ça qui fait que j'ai envie de rester, en tout cas c'est ce que j'ai perçu et ce que je vois quoi.
Clémence, pour finir, est-ce que tu as une visibilité sur Internet?
Oui, donc j'ai une page Facebook donc, qui est Clémence Lataste Formation. Et j'ai un site aussi en collaboration avec trois collègues qui s'appelle equivalence-creative.com où donc on parle des différentes interventions qu'on propose, donc que ça soit des conférences, ateliers, des accompagnements individuels ou pour des groupes, ou pour des équipes, des formations professionnelles, des stages pour particuliers. Et voilà, donc il y a un panel en fait assez complet de tout ce qu'on peut proposer. Et sur ma page Facebook, c'est plutôt au niveau des actualités, des dates, des ateliers, des formations. Et je vous recommanderais aussi d'aller voir sur le site CNV Formation, qui est donc un site qui regroupe toutes les formations en France sur la communication non violente. Voilà.
Eh bien Clémence, merci d'être venue nous parler et puis nous te souhaitons bonne soirée.
Merci.
Interview.
Merci à toi aussi.
Interview.
Okay, the bird.